7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Et en cette journée mondiale des enseignants, gros plan sur leur salaire, leur carrière, leurs affectations, leur place dans la société. Un sujet crucial car d'ici 2030, il faudra dans le monde 68 millions d'enseignants supplémentaires. C'est en Afrique que le besoin d'enseignants est le plus urgent à cause de la pression démographique. Néanmoins, presque partout dans le monde, le sens du métier et la reconnaissance doit être interrogés. De moins en moins de jeunes se pressent au concours de recrutement en France, par exemple. On va en discuter avec nos invités. Barbara Tournier, bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez à l'Institut international de planification de l'éducation à l'UNESCO. Nous serons en ligne avec François Robert, qui est déjà en ligne d'ailleurs avec nous. Bonjour François Robert.
Bonjour.
Vous êtes expert de l'éducation sur le continent africain, également en Haïti. Et pour la France, Frédéric Rollet, également avec nous. Bonjour Frédéric Rollet. Vous êtes professeur de lettres en collège. Secrétaire général du SNES, c'est le syndicat majoritaire chez les enseignants en collège. Voilà, nous on dit collège-lycée,
oui,
hein, si vous êtes d'accord, parce que second degré en France, on dit le secondaire en Afrique. Enfin, les mots changent, mais pas les questions, les grandes questions cruciales finalement. On entendra aussi le témoignage d'un jeune enseignant, d'une jeune enseignante en région parisienne. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous êtes enseignant, vous pouvez vous exprimer en nous appelant au 33 1 84 22 71. 71, en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Et en ce vendredi 5 octobre, journée mondiale des enseignants, on donne la parole à un professeur d'espagnol dans le secondaire au Cameroun. Bonjour Diderot.
Bonjour Emmanuel.
Diderot, vous êtes professeur depuis combien d'années ?
Depuis 5 ans.
Vous avez dit au Standard que vous êtes dans un lycée en construction, ce qui veut dire pas mal de difficultés. Malgré ça, vous adorez votre métier. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous exercez ce métier, vos problèmes matériels au quotidien ?
Je suis dans un lycée bilingue, proche de Douala, capitale économique du Cameroun. Les conditions ne sont pas bonnes parce que les infrastructures, il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de salles et les effectifs sont très pléthoriques. Ce qui fait que de temps en temps, on doit se balader partout dans le lycée avec les élèves pour chercher un espace où s'asseoir et faire le cours.
Ça veut dire que parfois, vous n'avez pas de salle pour faire votre cours ?
Oui, parfois, il n'y en a pas de salle et on est obligé d'abandonner le cours, tout simplement.
Vous annulez le cours d'espagnol dans ces cas-là ?
Oui, dans le cas où on ne trouve pas de salle, on annule le cours.
Oui. Mais ce lycée est en construction depuis combien d'années ?
Le lycée existe depuis 2010. Les lycées ici se créent un peu par décret, c'est les politiciens qui font tout ça sans tenir compte des réalités, et ce qui rend un peu difficile la tâche aux enseignants et aux administrateurs.
Ça veut dire que le ministère de l'Éducation est parfaitement au courant de cette construction qui traîne et des conditions déplorables dans lesquelles vous enseignez à l'OUM.
Effectivement, le ministère est au courant parce que les missions viennent de temps en temps de Yaoundé pour se rendre compte des réalités. Pas plus tard qu'hier, il y avait une mission ici chez nous, donc... Ils savent parfaitement ce qui se passe. Du coup, je me dis que c'est une décision volontaire de ne pas nous mettre dans les bonnes conditions.
Volontaire, dites-vous ?
Les fonds qui sont alloués à cette fin-là sont détournés, je vais le dire ainsi.
C'est-à-dire, les sommes qui devraient arriver pour la construction, la fin de la construction de ce lycée, n'arrivent pas réellement sur le chantier ?
Oui, ils n'arrivent pas. Ils sont utilisés à d'autres fins par des administrateurs véreux qui sont là dans nos structures.
Donc corruption. Combien d'élèves avez-vous dans vos cours, Diderot ?
Bon, il y a des classes de plus de 100 élèves. Il y a des classes de plus de 100 élèves. Et le lycée est situé proche de la zone anglophone qui est en conflit aujourd'hui. Ce qui fait que cette rentrée, nous avons accueilli plus de 400 élèves supplémentaires.
Qui viennent se réfugier en zone francophone.
Oui, qui vient se réfugier ici et qui nous complique la tâche parce que c'est vraiment impraticable. Donc, dans ces conditions, un enseignant qui n'a pas de vocation devrait abandonner.
Et vous, comment se fait-il que vous n'abandonniez pas, Diderot ?
Moi, j'aime l'enseignement. Je suis allé vers l'enseignement, pas parce que je veux gagner de l'argent, parce que mon père en a un peu, donc je serais resté avec lui dans les business. J'ai décidé de le faire parce que j'aime le métier et j'aime être avec les enfants, partager.
Ça, c'est votre récompense, en quelque sorte. C'est ce qui justifie votre choix.
C'est ça, parce que mon vrai salaire, c'est la satisfaction de me rendre compte que mes enfants ont réussi et qu'un parent m'interpelle en route pour me dire merci parce que son enfant a réussi, c'est ça.
Oui, mais le vrai salaire pour de vrai, là, quel est-il pour vous?
Effectivement, parce qu'au Cameroun, le salaire de l'enseignant, nous sommes à près de 347 €, très exactement.
347 € par mois, vous n'êtes pas un débutant, hein, Diderot?
Non, je suis plus un débutant. Sauf qu'il a fallu attendre au moins un an et demi pour avoir ces 347 € dans la totalité. Il a fallu qu'on prenne pendant un temps moins de 200 €.
La vie est chère au Cameroun. Comment vous êtes considéré au sein de votre famille? Votre papa est dans le business, avez-vous dit, dans le commerce. Quel est votre statut dans la famille?
Dans la famille, je suis un peu comme le modèle parce que j'ai décidé de faire l'école alors que je pouvais bien m'en sortir avec mon père dans ce business. Donc, j'ai un peu brisé un tabou qui existait là, selon lequel il fallait qu'on fasse du commerce. Puisque je suis issu d'une tribu qui est réputée pour faire du commerce. Et donc, j'ai décidé de faire l'école et j'ai fait en sorte que mes cadets puissent me suivre.
Vous êtes le premier fonctionnaire de la famille, si je comprends bien.
Oui, le premier, le tout premier de la grande famille.
Oui. Et donc, malgré tout, malgré la faiblesse de votre salaire, vous jouissez de cette considération-là?
Bien sûr, je suis très fier d'être enseignant parce que je le fais pour moi et pour mes élèves.
Oui. Un message à faire passer, Diderot?
Un message, je voudrais demander à mes amis enseignants qui sont là pour de l'argent d'abandonner parce qu'au Cameroun, on ne peut pas enseigner pour de l'argent. On ne peut enseigner que si on a la vocation pour cela. Alors, je voudrais aussi demander aux enseignants qui savent ce qu'ils cherchent d'aller plus loin avec la recherche. C'est mon cas, par exemple. Parce que je suis en train de rédiger une thèse de doctorat et je vais enseigner à l'université plus tard.
Ouais. Vous visez d'enseigner dans l'enseignement supérieur. Écoutez, vos élèves vous regretteront. Merci beaucoup, Diderot, d'avoir témoigné au micro des 7 milliards de voisins. Très très bonne journée, malgré ces difficultés, à Louma, au Cameroun. Merci beaucoup, Diderot.
Merci à vous aussi.
Comment vous réagissez, Barbara Tournier, Frédéric Rollet, François Robert, à ce témoignage? François Robert, peut-être, sur le continent africain?
Oui, c'est un témoignage qui ne me surprend pas. Le fait qu'on ouvre des lycées avant d'avoir construit les bâtiments et que les constructions prennent pour X raisons, ça c'est un grand classique. On pourrait trouver des solutions provisoires assez facilement en augmentant les plages d'ouverture des lycées. Et on ne le fait pas pour des raisons assez obscures, je dois dire. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait classique.
C'est le résultat de la politique éducation pour tous au primaire qui fait que maintenant on arrive avec un embouteillage dans le secondaire. Les cohortes, ça y est, sont arrivées au niveau de l'entrée dans le secondaire.
C'est ça, et au Cameroun en particulier, il n'y a pas beaucoup de régulation entre la fin du collège et le lycée. Un collégien qui arrive en fin de collège a toutes les chances de se retrouver au lycée. Il y a très très peu d'orientation, trop peu vers la formation professionnelle, c'est un des multiples problèmes. Après, ce professeur parle de son salaire. 347 €, ça fait 227 000 francs CFA. Il est dans les fonctionnaires les mieux payés de son pays. Fonctionnaire de l'éducation, j'entends. Et il y a beaucoup d'enseignants qui gagnent beaucoup moins que ça, qui n'ont pas des statuts de fonctionnaire. Et probablement, il le dit d'ailleurs lui-même, que ce qu'il attache à son métier, c'est cette possibilité d'avoir ce statut de fonctionnaire. Et ce serait intéressant de pouvoir le comparer avec les témoignages d'un enseignant vacataire, par exemple, qui ne bénéficie pas des mêmes avantages.
Alors, bien sûr, on va reparler des questions de salaire, mais plus généralement, Barbara Tournier, le métier d'enseignant est-il encore perçu comme attractif?
De moins en moins, en fait. Ce qu'on constate dans la plupart des pays, c'est finalement qu'au niveau du salaire, les salaires sont moins attractifs à diplôme égal que dans d'autres professions. Et donc finalement, quand on compare avec ses amis avec qui on a grandi, qu'on regarde ce que les autres sont devenus, ben on n'a pas trop envie d'aller dans l'enseignement. C'est un problème qui est global, parce que c'est pas juste les pays du Sud. En France, c'est la même chose. Et dernièrement, le Times a fait une couverture spéciale là-dessus pour attirer l'attention sur la condition enseignante. Aux États-Unis, ils gagnent pratiquement 19% de moins à diplôme égal que leur père.
Frédéric Rollet, vous, en France, en tant que syndicaliste enseignante, en 15 ans, le nombre d'inscrits aux différents concours du second degré collège-lycée a chuté drastiquement de 30%. Mm-hmm. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour que le métier d'enseignant ne soit plus attractif auprès des jeunes?
Alors, je crois que c'est vraiment multifactoriel. Il y a à la fois l'image du métier, le fait que on pointe sans cesse la France, notamment. Alors, il y a des problèmes réels, hein, mais sur le fait que on arrive très peu à vaincre les inégalités, hein, qu'il y a une corrélation très forte entre les inégalités sociales et scolaires. Donc, il y a une forme de un petit peu de culpabilisation en même temps des enseignants sur vous n'arrivez pas à remplir vos missions, en oubliant les progrès aussi en même temps qui ont été faits. Il y a la question salariale, bon, qui vient d'être évoquée. Depuis que le niveau de recrutement a été porté au master, on a, notamment dans les disciplines comme les mathématiques, évidemment, des jeunes qui disent on peut être bien mieux payé dans d'autres professions. Et puis, alors ça, c'était dans l'enquête PISA où on mesurait le climat, mais on a eu aussi ça dans
les
d'autres...
conditions d'exercice. Sont cités par les jeunes enseignants.
Ouais, ils ont quand même le sentiment que le métier est devenu plus difficile, et notamment que la question de la gestion de classe est compliquée. Ça fait peur à certains également.
François Robert, sur le continent africain, quelle est la position sociale des enseignants finalement?
La position sociale des enseignants, elle est très variable en fonction des statuts, puisque à peu près dans tous les pays d'Afrique, vous avez dans le même métier des fonctionnaires, des vacataires ou des contractuels, et puis des communautaires qui sont payés par les associations de parents dans la réalité. Et donc à la fois leur niveau de revenu et la façon dont ils sont considérés varie beaucoup. On a quand même des écarts de salaire qui peuvent aller de 1 à presque 10 hein, pour des métiers similaires. Mmh. Ça c'est un point. Aujourd'hui, la plupart des pays ont fait le choix d'élever les niveaux de recrutement, donc à plus du baccalauréat pour les instituteurs et des niveaux de licence, voire de master pour les profs du secondaire. Et là, clairement, on s'adresse à des candidats qui sont issus de milieux, des classes moyennes ou des bourgeoisies citadines, et pour lesquels l'entrée dans le métier d'enseignant est un déclassement par rapport à leur milieu social d'origine. Ça, c'est très clair et c'est probablement une des clés des crises de recrutement qui existent en ce moment en Afrique.
Est-ce qu'on peut parler pour la France aujourd'hui, quand on a un master, quand on se dirige vers l'enseignement, est-ce que c'est vécu par les jeunes enseignants qui choisissent cette profession ou par leur entourage comme une forme de choix singulier, déclassant ou pas, Frédéric Rollet?
Alors, je ne crois pas. On avait commandité un sondage à l'organisme Ipsos là il y a un peu moins d'un an. Et alors, ce qui était frappant, c'est qu'on voyait qu'il y avait 20 points d'écart sur 20 ans de satisfaction par rapport au métier. Hein, on avait chuté de 20 points. Donc ça, c'est évidemment assez significatif. Mais on était quand même encore autour de 60% de gens qui étaient contents. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a quand on interroge les jeunes enseignants, il y a toujours l'idée qu'ils vont faire un métier particulier, où il faut s'investir et où ils ont le sentiment quand même qu'ils vont d'une utilité sociale, ce qui les porte quand même encore.
Oui, en même temps, les annonces politiques là pour cette rentrée ne sont guère réjouissantes. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé une suppression de 2600 postes d'enseignants dans les collèges et les lycées. Ouais, ouais. Le budget néanmoins est en hausse, mais c'est vrai que l'augmentation du budget ira pour l'école primaire. Ça veut dire quoi? Comment c'est perçu par les enseignants à l'heure actuelle qui exercent dans des conditions difficiles dans le secondaire?
Là, je crois qu'ils vont être très remontés parce que tout le discours du ministre actuel de l'Éducation sur le fait on dédouble les CP, les CE1 dans l'éducation prioritaire parce qu'on se rend compte que quand il y a moins d'élèves, c'est quand même plus facile de détecter des problèmes et de conforter les apprentissages. Et en même temps, là, du coup, on va aboutir à des classes encore plus chargées dans le second degré. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amertume et de colère.
Néanmoins, il y aura des revalorisations de salaire par les heures supplémentaires. Comment c'est vécu? Est-ce que les enseignants ont envie de travailler un petit peu plus, 2 heures de plus par semaine, par exemple, pour avoir finalement combien à la fin de l'année en plus?
Alors, la question salariale est devenue importante, mais si on regarde les chiffres, il y a déjà 72% des enseignants qui font des heures supplémentaires, et plus de 2, hein, c'est une moyenne de 2,2, puisque ce sont des moyennes, donc déjà, ça va être un petit peu compliqué de trouver. Ensuite, la première heure supplémentaire, elle est rémunérée 20% de plus que le taux moyen de l'heure, mais dès que vous êtes au cinquième échelon, c'est-à-dire assez rapidement dans la carrière, la rémunération de l'heure supplémentaire est moindre que celle de l'heure.
Donc, plus vous faites des heures supplémentaires, finalement, moins ça vous rapporte proportionnellement.
Oui. Puis après, c'est derrière toute la question de la qualité du travail, de toute façon aussi.
Vous restez avec nous. On va bien sûr entrer dans le détail des salaires avec vous aussi, Barbara Tournier, parce que il faut bien comprendre comment les enseignants se considèrent par rapport à d'autres pays, comment ils sont payés, pourquoi il y a tant d'inégalités aussi d'un pays à l'autre, avec pourtant des niveaux de richesse comparables. On en discute, 7 milliards de voisins, 5 octobre, journée mondiale des enseignants.
Où est passé ton bonheur ? 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 Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Je ne peux plus parler, je ne peux plus parler.
Milliards de voisins sur RFI. Comme chaque vendredi, nous parlons éducation et en ce vendredi 5 octobre, journée mondiale des enseignants, nous nous interrogeons sur les carrières des enseignants, l'attractivité du métier, les salaires évidemment, mais tout ne dépend pas des salaires, les conditions d'exercice du métier, le déroulé des carrières, les affectations aussi. Barbara Tournier, vous travaillez à l'UNESCO, vous avez participé à un projet de recherche qui portait sur plusieurs pays, d'ailleurs des pays assez différents, des pays en Amérique du Sud, la Thaïlande, l'État de New York aux États-Unis. Quel est votre constat par rapport au salaire des enseignants et à la façon dont on essaye d'améliorer l'attractivité pour ce métier ?
Le constat par rapport donc au salaire des enseignants, c'est qu'il est, comme je l'ai dit précédemment, à diplôme égal, il va être plus bas que dans d'autres secteurs d'activité. Donc ça pose un problème d'attractivité pour le métier, mais l'argent ne fait pas tout. Il faut aussi réfléchir à comment va se dérouler la carrière d'un enseignant et aussi à l'évolution du salaire en cours de carrière. Il y a deux choses. Donc au niveau du déroulé de la carrière des enseignants, ce qu'on a pu constater, c'est que souvent, un enseignant qui rentre dans la profession n'aura pas de perspective de carrière. Il va rentrer enseignant, il va finir enseignant. Il y aura très peu de postes ouverts à promotion et ce sera en général pour partir dans l'administration. Ce qui fait que les meilleurs enseignants ont souvent tendance à partir dans l'administration. En tout cas, dans les pays qu'on a étudiés. Nous, on travaille surtout en Afrique. Et donc, pour essayer de rendre le métier un petit peu plus attractif, on a regardé les pays qui avaient justement essayé d'élargir les possibilités qui étaient ouvertes aux enseignants pour qu'ils puissent s'engager dans différentes filières et de ce fait réussir à garder les meilleurs enseignants en salle de classe. Donc un enseignant peut arriver à un niveau junior et progresser à un niveau senior et au fur et à mesure acquérir des nouvelles responsabilités pour lesquelles il a un salaire additionnel.
Vous le disiez, le cas des enseignants du public aux États-Unis est assez inquiétant. Le Time Magazine a consacré sa couverture il y a quelques jours et tout un dossier avec des témoignages d'enseignants américains du secteur public, hein, je précise bien, aux États-Unis. Il y a des témoignages d'enseignants qui disent « J'ai un master, 16 ans d'expérience, 2 jobs d'appoint, je donne mon sang et mon placement pour payer mes factures, je suis enseignant en Amérique ». Notre enseignante dit beaucoup de femmes, hein, évidemment. J'ai 20 ans d'expérience, mais je ne peux pas me permettre de réparer ma voiture, de consulter un médecin pour ma migraine et d'épargner pour assurer un avenir à mes enfants. Je suis enseignant en Amérique. Voilà, ça c'est le sort des enseignants du public aux États-Unis. Vous avez, vous avec l'UNESCO, travaillé sur le cas de l'État de New York. Comment est perçue la carrière des enseignants et quelle est la politique choisie ?
Alors on a regardé la ville de New York. Et en fait, je pense qu'il faut relativiser un petit peu ces problèmes d'attrait du métier, parce que même si les salaires ne sont pas attractifs, en fait, ils ne souffrent pas de manque de candidats. Le métier reste attractif parce qu'on a quand même des conditions de travail qui sont... on a un salaire qui est garanti, des congés, etc., qui font qu'on arrive quand même à avoir suffisamment de candidats. Après, on n'aura peut-être pas les meilleurs candidats. En tout cas,
dans un pays où on perd son job très facilement, voilà, hein, quand on travaille dans le privé. Donc effectivement, travailler dans une école publique, dans un lycée public, il y a une forme de stabilité.
Exactement. Ça, on le retrouve à peu près dans tous les pays. Après, à New York, plus spécifiquement, donc il n'y avait pas de problème pour attirer les enseignants. Et à New York, ils ont fait une réforme qui est très intéressante.
76 000 enseignants hein, dans le secteur public.
76 000 enseignants, et c'est le plus gros système éducatif des États-Unis. Et eux, ils, à l'instar des autres États américains, à une époque où l'État encourageait vraiment à mettre en place des réformes où on allait encourager les enseignants à améliorer les résultats des élèves à travers des mesures financières, à travers des bonus, l'État de New York a dit non, nous ne voulons pas de ces mesures-là. Avec les syndicats, ils ont travaillé ensemble en disant nous ne pensons pas que ça va marcher. Nous allons faire une réforme, mais les enseignants...
Pas de pression au résultat, donc.
Voilà, pas de pression,
pas de pression financière au résultat.
Par contre, on est d'accord pour que les enseignants gagnent plus s'ils ont plus de responsabilités et s'ils en font plus que les autres. Et là, d'accord. Et là, ils ont mis en place 3 niveaux additionnels d'enseignants auxquels les enseignants peuvent postuler pour avoir une promotion.
C'est une politique atypique aux États-Unis ?
Oui.
Si on revient au cas de la France, Frédéric Rollet, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, les jeunes enseignants français sont parmi les plus mal payés d'Europe. Mm-hmm. Je parle sous votre contrôle, un prof certifié Bac+5 qui vient juste d'être titularisé, il a à peu près 2000 euros bruts par mois, c'est ça?
Oui, c'est ça, il est autour de 1300, entre 1300 et 1400 net, puisqu'après il y a selon les zones, il y a des indemnités un peu différentes. Mais
des indemnités, oui, notamment, oui, si on travaille en zone d'éducation prioritaire, ça, c'est encore en REP, mais enfin là il y a des indemnités, il y a les heures supplémentaires qui peuvent rapporter aussi.
Mais on est à un SMIC,2 quoi, en gros.
Un SMIC,2, le salaire minimum. Voilà. Au Luxembourg, un enseignant gagne plus du double. En Allemagne, un enseignant gagne 73% de plus. Néanmoins, en fin de carrière, est-ce que les salaires en France sont plutôt dans la fourchette haute? Ça s'améliore?
Alors, ça s'améliore en fin de carrière, notamment parce qu'on a obtenu que la plupart des enseignants accèdent à un nouveau grade, enfin la hors classe qui est pas un nouveau grade, mais que tout le monde puisse y accéder en fin de carrière. Donc, évidemment, ça améliore un petit peu les revenus.
Comment expliquer que la France en soit là, des salaires aussi bas?
Alors, ça tient à chaque fois qu'on en discute avec nos différents, avec le ministère, c'est oui, mais vous êtes nombreux. C'est l'argument, c'est la masse, le fait que à partir du moment où on augmente
le nombre d'élèves par classe n'est pas particulièrement bas en France par rapport aux autres pays de l'OCDE, au contraire d'ailleurs.
C'est ça. Et,
donc
bon, et en plus, on a quand même maintenant atteint les objectifs qui étaient ceux de la précédente loi de refondation, hein, d'arriver à 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. C'est le cas. Ça s'est pas fait comme ça. Il a fallu un investissement des personnels. Donc on a un retard, oui, maintenant vraiment dans la revalorisation des carrières des enseignants.
Mais les enseignants conservent cette idée qu'ils sont peut-être trop nombreux en France. C'est ça, c'est l'idée qu'on veut faire passer.
Les enseignants, non, ils considèrent pas qu'ils soient trop nombreux. C'est le gouvernement qui explique que vu le nombre, c'est compliqué. Et d'où l'idée de politique d'individualisation en disant on peut pas tous vous revaloriser, donc on va faire le choix éventuellement de mettre en place des formes d'individualisation des salaires.
Le salaire moyen d'un prof qui a 10 ans d'expérience a baissé en France ces dernières années, c'est-à-dire que non seulement la France est mal placée dans les pays de l'OCDE, mais en plus les enseignants perdent du pouvoir d'achat, parce que c'est vrai qu'il y a eu une augmentation des cotisations sociales, il y a eu le gel du point d'indice dans la fonction publique, alors que dans les autres pays de l'OCDE, les salaires progressent avec le coût de la vie.
Oui, on en arrive à décrocher par rapport à l'inflation, et on a des témoignages, notamment dans la région parisienne, de jeunes enseignants qui disent mais je ne peux pas me loger, je suis obligé d'avoir une colocation ou bien de me débrouiller comme je peux, mais je ne peux pas me payer un loyer.
François Robert, sur le continent africain, concernant les salaires des enseignants, quelles sont à l'heure actuelle les tendances globales? Vous avez tout à l'heure souligné rapidement les inégalités entre les contractuels et les fonctionnaires. On a tendance à dire que l'Afrique est en train de faire marche arrière et à revaloriser un peu les contractuels pour qu'il y ait moins d'inégalités. Où est-ce qu'on en est?
Ça va, ça vient. C'est-à-dire que
ça va, ça vient.
Il y a régulièrement des mouvements d'intégration des contractuels dans la fonction publique. Quand ça chauffe un peu trop, qu'il y a des grèves perpétuelles, on en prend un paquet, alors soit de plein droit, soit en faisant passer des concours ou des examens professionnels, on en intègre quelques-uns ou des bons paquets, et puis ça repousse aussitôt parce que la démographie est là et que les moyens budgétaires sont de toute façon limités. À côté de ces contractuels qui ont encore un statut intermédiaire, je dirais pas enviable, mais peut-être vivable dans certains cas, il y a aussi tous ceux qui sont rémunérés par les communautés, et là, pour lesquels on n'a pas beaucoup d'efforts, hein. Il y a très peu de pays qui ont installé des systèmes de subvention des communautés ou des villages pour payer les enseignants, et donc c'est en fonction des disponibilités, de la richesse des parents d'élèves, qu'on peut arriver à des salaires qui peuvent être parfois en nature, en partie en nature, qui peuvent être de montants complètement dérisoires quand il s'agit d'argent. J'ai vu des profs du secondaire au Togo percevoir 20 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire 30 euros. C'est même pas un salaire de survie, quoi. Et pour cela, c'est pas encore dans les écrans radars de les intégrer à la fonction publique. Mmh. Donc ils restent là, j'en ai rencontré, ils restent là dans l'espoir de pouvoir passer un concours. Ils essayent d'obtenir qu'il y ait des concours réservés pour eux où on tienne compte de leur expérience enseignante, qui est une expérience tout à fait réelle, mais ça ne se fait pas facilement, et puis les syndicats restent des syndicats de fonctionnaires principalement, donc ne les défendent pas beaucoup.
Oui, ça aussi c'est un réel problème. Si on reste sur ces écarts, si on prend le cas de Madagascar par exemple, pour les instituteurs du primaire, les salaires vont de 1 à 5,7, c'est ça? Un enseignant du primaire à Madagascar peut être payé plus de 5 fois plus?
Entre les différents statuts de fonctionnaires, ça va de 1 à presque 6. Mais maintenant, si on prend les maîtres communautaires, subventionnés ou pas, et qu'on compare aux salaires les plus élevés des fonctionnaires, on va être à un rapport de presque 8.
C'est la même chose au Bénin, dans une moindre mesure? C'est la même chose en Côte d'Ivoire?
Oui. Et avec quelque chose d'un petit peu curieux, d'ailleurs, je crois que personne n'a vu venir, c'est qu'on a une explosion des effectifs dans les collèges aujourd'hui, dans toute l'Afrique francophone, et à Madagascar aussi, et donc un fort besoin de recrutement de profs de collège, donc beaucoup d'enseignants vacataires ou communautaires qui finissent par être sensiblement moins bien payés que leurs collègues du premier degré.
Vous restez avec nous, François Robert, Frédéric Rollet, Barbara Tournier. On se retrouve dans quelques instants. On va aborder un sujet qui est délicat, c'est le sujet des affectations. Parce que les enseignants, on l'a dit, ont parfois des conditions d'exercice difficiles, des salaires insuffisants, ça presque partout maintenant, compte tenu des niveaux de vie et surtout des autres salaires à diplôme égal, que ce soit dans les pays en développement ou développés. Mais ont-ils le bon poste au moment où ils le souhaitent? Ça, c'est toute la question. On y revient dans quelques instants. She's always in my way, looking through the window. Oh, pretty as a picture, oh, with a water seeker phone. Strange animal, a mighty kitty, a vertical smile. Her name is Iggy, oh, Ziggy. Milliards de voisins sur RFI. On va parler des affectations des enseignants. Je vous propose d'écouter à présent un témoignage d'une enseignante française. Il existe en France une union civile autre que le mariage, qui s'appelle le PACS, le Pacte Civil de Solidarité. C'est un substitut au mariage civil qui existe depuis de nombreuses années en France. Et aujourd'hui, de faux couples détournent le PACS. C'est le cas de certains profs comme Laura, 24 ans, jeune prof, fraîchement diplômée, qui sera titularisée l'année prochaine. Elle s'exprime au micro d'Alice Milot.
Moi, j'ai fini mes études à la fin de l'année dernière. Et en France, lorsqu'on obtient son concours du CAPES, on fait des vœux pour être affecté dans telle ou telle académie qui ne sont pas forcément respectés et qui dépendent en fait uniquement de la situation familiale, c'est-à-dire du nombre d'enfants et du fait qu'on soit marié, paxé ou non. Donc moi, n'ayant ni enfant ni conjoint, j'avais très peu de points et je savais que je n'avais quasiment aucune chance de retourner dans mon académie d'origine puisque le lieu d'origine et d'autres critères ne rentrent absolument pas en compte dans ce classement. J'ai grandi en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, donc je suis quelqu'un qui aime énormément l'extérieur, l'environnement, etc. Et j'ai vraiment besoin de vivre à la campagne, d'avoir de la place, de l'espace, parce que enfin, je peux pas vraiment m'en passer, en fait. Et donc je me suis rendu compte que vu ma situation personnelle, comme j'étais célibataire et sans enfant, parce que dans l'éducation nationale, c'est vraiment la famille qui est favorisée et c'est ça qui donne des points, moi j'allais me retrouver avec très peu de points finalement au moment de ma titularisation et que j'allais tomber dans des académies les moins souhaitées.
C'est-à-dire ?
Il me semble qu'il y a Reims cette année, il y a Créteil.
Et donc Créteil, donc l'académie de la Seine-Saint-Denis. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Parfois, il y a Mayotte, enfin, ça peut vraiment briser un début de carrière de commencer et d'arriver dans une classe où on n'arrive pas du tout à se faire respecter, où on peut pas du tout transmettre le savoir. Puis c'est aussi une question financière parce que prof en Ile-de-France, finalement, on est dans un niveau assez bas. Financièrement, c'est assez compliqué de s'en sortir et il faut se serrer la ceinture. Alors que chez moi, les loyers sont 4 fois moins chers. Je sais que je peux avoir une maison de 200 mètres carrés avec un immense jardin pour le même prix et une qualité de vie sans bouchons, sans pollution. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc en fait, j'ai appelé les syndicats pour connaître les stratégies de mutation et pour savoir, en fonction de ma situation et de mes points, où est-ce que je risquais d'atterrir l'année de ma titularisation. Ils m'ont conseillé à demi-mot de me paxer en m'expliquant que la plupart des gens le faisaient et qu'il serait bien que je trouve un pax. Que sans pax, c'était très compliqué d'avoir ce qu'on voulait et qu'il fallait pas se leurrer. La plupart des gens seraient paxés à la rentrée et que ce serait bien pour moi de l'être aussi. Je savais pas trop comment faire et du coup en fait j'ai décidé finalement de me paxer. Donc j'ai demandé à mon meilleur ami qui est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et qui était prêt à faire ça pour moi. Malheureusement comme il travaillait sur Paris, ça m'aurait rapproché de cette grande ville que j'essayais à tout prix d'éviter. Donc j'ai demandé un peu autour de moi et j'ai une excellente amie qui a accepté de faire ça pour moi le mois dernier.
Donc une fille.
Donc une fille, voilà, et nous nous sommes paxés ensemble et... Voilà, enfin c'est très simple, il y a très peu de formalités et ça engage à très peu de choses. On n'est même pas obligé la première année de faire la déclaration d'impôt ensemble. Pour se séparer, il suffit d'envoyer une lettre. Donc.
Et au moment de la cérémonie, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Un peu de gêne et puis un moment un peu de rire aussi parce que on se retrouvait toutes les deux à dire oui devant un adjoint du maire alors que finalement on n'avait aucun projet de couple ou de vie ensemble. Ça m'a gênée d'un point de vue éthique parce que je trouve ça moche de devoir tricher en fait pour vivre dans sa région, même dans sa région d'origine.
Qu'est-ce que vous risquez si vous êtes démasqué ?
Je sais pas du tout, je pense pas qu'il y ait de contrôle, enfin, je vois pas comment on pourrait être démasqué en fait. Personne va venir sonner pour voir si on est bien ensemble, si on se fait un bisou le matin. Enfin.
Il y a une faille dans le système et vous l'exploitez ?
Un petit peu, oui. Après, ce qui est triste, c'est qu'on soit... obligé de faire ça pour pouvoir... Enfin, déjà, être prof, il y a quand même des inconvénients. Enfin, de moins en moins de personnes qui veulent faire ça. Et avec toutes les contraintes qu'on a, c'est vrai qu'on en arrive à ce genre d'extrémité.
Ici 7 milliards de voisins.
Seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin.
Frédéric Rollet, vous représentez un grand syndicat enseignant du secondaire en France. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, en France ?
Je crois qu'il faut... Bon, d'abord, il y a quelques inexactitudes dans le propos de la jeune collègue. Il y a des priorités qui sont des priorités fonction publique. Que vous soyez dans la police, dans la justice, etc. Vous avez ce qu'on appelle l'autorité parentale unique, c'est-à-dire vous élevez seul un enfant, si vous êtes handicapé, si vous êtes marié, de toute façon, dans toutes les administrations, il y a un barème qui permet d'avoir des bonifications. Mais ça, c'est pour tous les fonctionnaires. Hein. Les oui. fonctionnaires ont des avantages et des inconvénients, enfin des droits et des devoirs. Ensuite, il y a une très grande inégalité de vivier d'étudiants par région. Si on prend l'Académie de Versailles, elle scolarise plus de 9% de l'ensemble des élèves de France. Ensuite, c'est Créteil et Lille. Or,
il y a de plus gros besoins, forcément.
Il y a de très gros besoins et en même temps, il y a des retards de scolarisation dans certaines académies. Si on prend Amiens, par exemple, et qui font que ce sont des académies qui ne pourvoient pas, hein, ne sont pas autosuffisantes. Elles vont pas pourvoir en étudiants et en capétiens pour accueillir les élèves. Donc, il faut mettre des profs devant les élèves. Alors, le tout après, et c'est ce qu'on travaille au SNES-FSU, c'est d'avoir des barèmes qui permettent à un moment, dans des délais quand même raisonnables, c'est-à-dire pas au bout de 10 ans, mais à un jeune qui a été affecté hors de l'endroit où il veut vivre, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de rester dans la région d'origine, hein, il y en a qui veulent aussi bouger.
Tout à
mais
fait.
de rejoindre
votre syndicat accepterait qu'il y ait plus de décentralisation dans le recrutement, par exemple, de laisser plus de liberté aussi aux chefs d'établissement pour recruter leurs enseignants?
Si vous voulez, ce qui se passe, par exemple, prenons l'exemple du premier degré. Dans le premier degré, on a ce qu'on appelle des concours primaire. Nationaux à gestion déconcentrée. Alors, ça veut dire que vous vous inscrivez dans une académie. Mais, alors, on sait que effectivement, on a plus de chances d'être recruté si on le passe à Créteil que si on le passe à Montpellier, parce qu'il y a le rapport entre le nombre de candidats et le nombre de postes est moindre. Mais le problème après, c'est que quand vous êtes recruté à Créteil. Et que pour sortir ensuite de l'académie de Créteil, il faut une autorisation de l'inspecteur d'académie du département où vous êtes, si par exemple si c'est la Seine-Saint-Denis, et une autorisation de l'académie d'accueil en disant, s'ils disent nous, on n'a pas besoin de vous, parce qu'on a, en fait, vous restez bloqué.
Ou toutes les stratégies de contournement, la fin des stratégies de contournement, c'est pas pour demain.
Non, mais c'est vraiment, je crois, travaillé par le barème. Mais après, il y a aussi ces questions d'égalité sur le territoire. Hein. Il faut bien que tous les élèves aient des profs.
Bien sûr. Et je vais poser du coup la question à François Robert pour le continent africain. Quelle est la réalité des disparités territoriales entre, alors là, c'est plutôt entre capitale, grosse ville et zone rurale en matière de déploiement d'enseignants. Les zones rurales étant massivement contournées par tous les moyens, non, François Robert?
Oui, absolument. Absolument. Le souci des enseignants, c'est d'être proche des villes ou des grands axes de communication goudronnés.
Alors, comment s'exercent les pressions, les tractations pour éviter d'être affecté dans un trou, dans un village, comme disent les enseignants?
En fait, on n'évite pas d'y être affecté, mais on se débrouille pour en repartir.
Oui.
Avec des notes de service. Alors, en fait, c'est un mécanisme qui est assez... Tous les mécanismes existent et la question est un petit peu complexe. C'est-à-dire que si vous prenez un pays, n'importe lequel, on va prendre par exemple la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez un peu plus de 100 000 fonctionnaires de l'éducation. Donc sur 100 000 fonctionnaires de l'éducation, il y a forcément des choses très difficiles, des cas douloureux, des gens en difficulté. Il y a des grands malades, il y a des gens qui sont atteints du cancer, il y a des situations sociales très compliquées, des familles monoparentales, tout ce qu'on veut. Donc des tas de bons motifs pour pouvoir obtenir des affectations dans les villes. Mais malheureusement, les procédures ne permettent pas facilement de régler ces cas-là proprement. Et donc, on fait des entorses à la règle pour la bonne cause. C'est-à-dire, on va dire, madame telle qui est malade, bon, d'accord, je lui fais un papier pour qu'elle soit...
Ce qui veut dire qu'en proportion, aujourd'hui, quel est le pourcentage d'enseignants qui parviennent à contourner le système et la règle qui, à la base, n'est pas mauvaise dans ces pays-là?
En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on fait des exceptions pour la bonne cause et pour de bonnes raisons. Et quand on a fait une exception, on a fait 10 000. Parce que on va aller trouver le directeur du coin. On va
lui dire, en proportion, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous allez trouver des tas d'enseignants en surnombre dans les établissements de grandes villes. Et puis un manque criant d'enseignants dans les écoles rurales et maintenant dans les collèges ruraux, puisqu'on a beaucoup de collèges en milieu rural.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous. François Robert, expert de l'éducation en Afrique. Merci à vous, Frédéric Rollet du SNES, le syndicat majoritaire chez les enseignants collège-lycée. Et merci à vous, Barbara Tournier de l'UNESCO. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Comme chaque semaine, nous accueillons Marie-Rose Moreau. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Marie-Rose Moreau, vous êtes pédopsychiatre, directrice de la revue transculturelle L'Autre. Et aujourd'hui, une question, comment les enfants apprennent-ils à parler?
Basiquement, les enfants apprennent à parler pour répondre à ceux qui leur parlent, aux adultes, aux autres enfants. Ils apprennent à parler pour partager avec les autres des mots, des émotions, des choses qu'ils ressentent, des informations, des choses qu'ils ont envie de dire. Et en fait, c'est une vieille question parce qu'au 19e siècle, déjà, une expérience avait été faite pour voir quelle langue les enfants parlaient spontanément si on ne leur parlait pas. Et en fait, les auteurs cherchaient une langue universelle, une sorte d'espéranto.
Une sorte de babillage.
Mais universelle, que tous les bébés parleraient, en dehors de tout apprentissage, en dehors de toute influence par l'entourage.
Et qu'est-ce qu'on a découvert ?
Eh bien, en fait, c'était terrible cette expérience parce que les enfants à qui on ne parle pas, ne parlent pas. Ils ne parlent aucune langue et ils risquent souvent de mourir. Il y a eu une mortalité absolument incroyable. Donc, la parole est nécessaire aux enfants pour parler, la parole des autres, et même pour vivre, puisque si on ne nous parle pas, on peut mourir.
On se souvient d'ailleurs de la situation dramatique dans les orphelinats, en Roumanie.
En Arménie, par exemple, j'avais rencontré un bébé dont je me souviens encore, un bébé de 3 ans, qui en paraissait beaucoup, beaucoup moins, que j'ai rencontré donc dans un orphelinat où il vivait depuis sa naissance. On m'a demandé de le voir car il ne parlait pas, il criait tout le temps, en particulier la nuit. Et bien sûr, je me suis dit, mais comment ce bébé va-t-il avoir envie de parler alors qu'on s'adresse jamais à lui directement? Comment va-t-il trouver l'élan vital pour trouver la force pour communiquer avec les autres? Pas de modèle, pas de nécessité d'apprendre pour s'agripper aux autres, pour toucher les autres, etc. Alors pendant la consultation avec ce bébé, je me suis adressée à lui directement. Je lui ai raconté un certain nombre de choses, d'où je venais, ce que je faisais, pourquoi j'étais là, que j'étais contente de le voir, que je comprenais qu'il avait pas envie de parler.
Oui, il vous a écouté?
Et oui, non seulement il m'a écouté, mais il m'a souri. Et c'était la première fois qu'il souriait à quelqu'un. Donc du coup, les puéricultrices se sont dit, mais en fait, il peut sourire. Parce qu'ils pensaient qu'il était bête, ce bébé, et qu'il ne bougeait pas parce qu'il n'avait aucune envie d'interagir avec elle. Donc j'ai prescrit aux puéricultrices de parler au bébé directement, en le regardant bien dans les yeux, en disant son prénom. Ça, c'est très important. On s'adresse vraiment à lui. Et en le regardant. Mais 7 jours plus tard, il commençait à gazouiller. Il devenait un bébé beaucoup plus intéressant.
Ça devenait un enfant. Finalement.
Oui, et puis beaucoup plus gratifiant pour les puéricultrices. Et comme ça, le cercle d'un bébé mou qui a aucune envie, qui ne sait pas, s'est, disons, arrêté. Et il a donné envie aux autres de s'occuper de lui.
Ça veut dire que les enfants apprennent donc lorsqu'ils ont un modèle, par mimétisme, par imitation?
Alors en fait, il faut plus qu'un modèle pour parler. Il faut que l'enfant en ressente vraiment la nécessité et qu'il soit très actif. Ça, c'est vraiment une découverte beaucoup plus tardive. On apprend à parler en s'appropriant le langage et pour, au fond, s'approprier le monde. Dans les années 60 à peu près, prévalait la théorie de ce qu'on appelait le bain linguistique. On pensait qu'on apprenait à parler par immersion dans une sorte de bain de langue, comme une sorte d'éponge, une douche. Mais depuis, on a appris que cette imprégnation ne suffit pas. Bien sûr, elle est importante, mais il faut en plus que l'enfant il ait envie, qu'il soit actif, qu'il cherche à parler, qu'il cherche des mots, des objets, des idées, qu'il ait envie d'interagir avec l'autre.
Ouais, d'être dans la rencontre. Mais alors, que peuvent faire les parents pour favoriser le langage des enfants au quotidien?
Il y a plein de choses à faire pour cela, quelles que soient les circonstances.
Pour des parents qui ne sont pas lettrés, bien sûr.
Oui, pour tout le monde, et puis dans toutes circonstances, parce que c'est vraiment l'accession au langage, c'est important, et la qualité du langage des bébés. Il faut donc leur parler simplement, directement, mais comme on parle à chacun. Leur raconter des histoires, ça c'est très important, parce que ça leur donne en plus envie de comprendre, de connaître. Alors soit on les raconte, comme dans un certain nombre de pays où on a ces traditions, ou alors on lit les histoires, ça c'est dans les traditions plus écrites. En tous les cas, on les met dans des ambiances avec des enfants ou avec des adultes pour qu'ils prennent du plaisir à parler, à échanger. Il y a aussi le jeu qui est très important pour donner envie et pour donner donc ce plaisir de l'échange. Pour apprendre à parler, il faut vouloir communiquer avec les autres.
Voilà, et il faut le retenir absolument, ce lien essentiel. Merci à vous Marie-Rose Moreau. Vous avez entre autres publié le développement psychique précoce de la conception au langage. Évidemment, tout est noté sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. La semaine prochaine, les bébés comprennent-ils le sens de ce qu'on leur dit exactement? Merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Lundi, 7 milliards de voisins, à l'occasion du Mondial de l'automobile à Paris, quelle place occupera la voiture dans nos vies? Avec 2 milliards de véhicules prévus en 2040, comment concilier amour du volant et environnement? Quelle est la voiture du futur? En quoi est-elle un indicateur d'inégalité sociale? Bien sûr, vous témoignerez, vous réagirez au 33 1 84 22 71 71.